Alors, voilà un diaporama. C'est bien le bon cette semaine? Oui, des fois, on se trompe, mais aujourd'hui, c'est exactement ça. Merci. Et c'est pas Antoine qui se trompe. Des fois, c'est moi qui envoie le mauvais fichier. Alors, le thème de ce matin, le titre, « Les manières dont Dieu nous parle ». On revient à notre série sur la prière et l'écoute de Dieu. Et cette leçon s'inspire d'une des leçons qu'on a vues dans le cours « À l'écoute de Dieu » qu'on a fait à Grandeur du Québec. On était un contingent appréciable de l'Oasis. On était 10, ben, on a fini 9. Il y a une personne qui n'a pas pu continuer. Mais sur une trentaine de personnes, c'est quand même beaucoup. Et ça s'est terminé hier. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait m'amener un verre d'eau. Je pense que ça, là, il se lève. Merci à tous. J'ai juste besoin d'un verre d'eau et j'apprécie. Non, hein, c'est ça? Donc, je vois que c'est possible qu'une tranquillement, une culture de prière encore plus forte se développe ici à l'Oasis. Où est-ce qu'on met la prière et l'écoute de Dieu? Donc, même au centre de nos prières, de nos réunions décisionnelles, des réunions d'affaires, pas juste au début et à la fin. C'est un peu comme ça que j'ai connu les choses traditionnellement et dans d'autres églises encore plus que l'Oasis. C'est on prie au début, on parle, on dispute et puis on prend des décisions du mieux qu'on peut, puis on prie rapidement à la fin quand il reste 30 secondes. Mais l'idée, c'est que le Seigneur veut qu'on mette la prière même au centre de nos réunions. Et vous savez, on a vécu quelque chose d'assez le fun vendredi. Les différents responsables de la prière se sont réunis. J'étais là et on a parlé de la prière. Et à deux reprises, on a fait face à des situations qu'on ne savait pas comment résoudre un problème ou un défi. Et on s'est dit, « Hey, on arrête-tu puis on écoute le Seigneur? » Et par deux fois, on a fait silence et on s'est mis à l'écoute de Dieu. Par rapport à la question c'est pas qu'on s'obstinait, c'est qu'on voyait pas de solution facile. Et ce qui est le fun, c'est qu'après le temps de silence, on a partagé qu'est-ce qu'on a entendu. Et dans les deux cas, dans les deux situations, il y avait comme des nouvelles pistes qui nous ont encouragés. On avait hâte de... OK, on va essayer ça. Et évidemment, on voit bien que l'écoute de Dieu, il faut y aller avec... Par étapes, il faut y aller avec une certaine prudence. Mais c'est vraiment encourageant parce que notre Dieu nous parle. Et même, il y avait un moment dans la prière d'écoute où une personne qui participait a dit, je demande qu'on arrête parce qu'on était en Zoom. Puis elle disait, il y a vraiment beaucoup de bruit dans l'appartement au-dessus du mien. Et j'arrive pas à me concentrer. Fait qu'on a vraiment prié que le bruit arrête, mais aussi on a prié que le Seigneur donne une concentration toute spéciale pour cette personne. Et donc, c'était vraiment une ambiance de prière encourageante et qui nous a propulsés vers l'avant. Et ce qui est le fun aussi, c'est que dans des réunions comme ça, parce qu'on est humain, on vient et des fois, enfin, je parle pour moi-même, je viens avec mon ego et mes idées, Puis je viens avec l'idée, moi, j'aimerais ça que la décision soit X, mais quand on met la prière au centre, quand on met l'écoute de Dieu au centre, c'est qu'on met Dieu au centre et on devient plus humble, on se rappelle que c'est lui le boss, pas moi, et on est beaucoup plus à l'écoute des autres, je parle pour moi-même, et qui fait que l'unité entre nous grandit. Alors, je voulais quand même partager ça au niveau d'une culture d'Église que plusieurs pratiquent déjà, et on va avancer plus loin avec l'aide de Dieu. Donc, les manières dont Dieu nous parle, on a déjà vu qu'on a un Dieu qui aime parler, hein? C'est un Dieu qui se communique. Le début de l'Épître aux Hébreux nous dit, « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans les derniers jours, nous a parlé par le Fils. Hein? » Donc, parce que le Fils, lui, c'est la parole de Dieu faite homme pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse profiter du pardon qui vient à travers son humanité pour nous tous. Extraordinaire. Il est parole de Dieu fait homme. Il est Dieu fait chair. Alors, on a déjà vu aussi, alors, Jésus, mais les Écritures. Hein, on avait un message aussi sur le fait qu'une bonne connaissance des Écritures, ça guide notre vie de prière et aussi notre écoute de la sagesse de Dieu. C'est le cadre et il faut être des étudiants des Écritures et de la bonne doctrine pour écouter Dieu d'une manière sage ensemble. Ça, on l'a déjà vu. C'est important de le répéter. On a parlé quand même un peu de la nature au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dieu nous parle par la nature. Mais c'est souvent des choses général sur lui. Mais je le rappelle quand même parce que ça fait du bien d'être à l'écoute de notre Créateur dans la nature. Maintenant, il y a bien d'autres manières qu'on découvre dans la Bible et d'une certaine manière dans l'expérience des chrétiens, bien que on va voir qu'il y a une façon dont Dieu parle qui est privilégiée pour lui. Le murmure doux et léger du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. On va y arriver à la fin. Il y a d'autres manières que Dieu a utilisées et continue d'utiliser. Une voix audible. Alors, peut-être que ça vous dérange quand quelqu'un dit... J'ai entendu une voix, et c'est Dieu qui me parlait, mais c'était une vraie voix audible. En fait, ça peut arriver. On le voit. Est-ce que c'est le Seigneur qui a appelé Jean? Dieu parle de bien des manières. Dieu parle de bien des manières. Et Samuel, vous vous souvenez du petit Samuel? C'était un tout petit garçon et lui a vraiment entendu une voix au milieu de la nuit. Samuel, Samuel. C'était le début de son appel, on va dire, prophétique et de juge. Et de leader en Israël. Paul, sur la route de Damas, il a été appelé pour devenir l'apôtre des païens et de se repentir de sa haine de Jésus-Christ et des chrétiens. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a vraiment entendu une voix audible. Maintenant, comme j'ai dit, c'est rare. C'est rare. C'est pas quelque chose que Dieu fait souvent aujourd'hui, je peux vous dire, je parle pour moi-même, ça m'est jamais arrivé à moi encore. Et je pense que si Dieu fait ça, c'est dans des cas de force majeure. Je vais vous raconter l'histoire d'un évangéliste et auteur très connu, Francis Schaeffer, qui a vécu à notre époque. Mais il est déjà décédé, mais il était très important comme évangéliste quand moi j'étais un jeune adulte. À un moment donné, il était mal pris. Il avait besoin d'un logement temporaire pendant une période de transition. Et il avait besoin d'un miracle de Dieu, un petit miracle. Il a demandé à Dieu en prière, « Où pouvons-nous vivre, Seigneur? Veuille nous le montrer. » Et c'est lui qui dit ça, c'est lui qui écrit ça. Immédiatement, il a entendu une voix audible. Il a été clair là-dessus. Il a entendu quelque chose qui dit « La maison de ton oncle Harrison. » La maison de ton oncle Harrison. Wow! Alors, bien que parfaitement clair, la réponse n'avait aucun sens. Son oncle vivait dans la maison. Il était très improbable qu'il leur propose sa maison. Pourtant, la voix était si directe qu'il a senti qu'il devait faire suite, avoir une certaine obéissance. Ça, c'est un principe important. Quand Dieu parle, il faut obéir. Quand tu penses que Dieu parle, il faut vraiment investiguer. Parce que si c'est Dieu qui a parlé, il faut obéir. En tout cas, il a appelé son oncle et son oncle lui a dit, ça se trouve que j'envisage de vivre avec mon frère l'année suivante et je souhaitais offrir ma maison gratuitement à toi et à ta famille pour l'année. Alors, voilà, c'est un témoignage qui est dans un des ouvrages de Francis Schaeffer. Donc, la voix audible, c'est quelque chose qui peut arriver même à notre époque. Mais c'est rare. Une autre façon dont Dieu peut parler aux humains à travers des anges. Alors, c'est vrai que la Bible dit que les anges de Dieu sont tout autour de nous. Dieu les envoie à notre service. Et ils nous aident, ils interviennent, mais en général, c'est discret et silencieux. Mais ça peut arriver. On voit dans la Bible, Abraham a été interpellé par des anges, Josué aussi, Balaam, qui n'était même pas un enfant d'Israël aussi, Gédéon et les parents de Samson dans Juges 13. On peut aussi parler de plusieurs prophètes. Dans le Nouveau Testament, Joseph, Marie, Jésus lui-même, et puis les apôtres, Philippe. Philippe, ce n'est pas un apôtre, c'est un diacre. Et on a vu aussi Corneille et Paul qui ont été aidés par des anges pour leur rendez-vous divin dans la maison de Corneille à Césarée, dans Actes 10. C'est encore rare et je vais expliquer pourquoi certaines façons de Dieu sont plus rares que d'autres. Mais même aujourd'hui, il est possible d'entendre un ange nous parler. Je vous ai raconté une fois, dans le temps de Noël, une expérience que j'ai vécue personnellement où je ne suis pas à 100% sûr, mais je crois que c'était un ange qui m'avait parlé. Je résume rapidement parce que c'est une histoire tellement un bon souvenir pour moi. Je devais aller dans une conférence de famille d'église pour aller sur l'estrade et présenter une implantation d'église. Et j'étais perdu, j'étais en voiture, j'étais perdu dans, c'était soit Verdun ou La Salle ou Petite Bourgogne, je ne me souviens pas, j'étais perdu. Et je me suis stationné quelque part pour regarder la carte routière. C'était avant Google Maps. Et quelqu'un dans une autre voiture s'approche de moi sans savoir, humainement parlant, que j'étais perdu, mais il est venu vers moi comme s'il savait que j'étais perdu. Et il a changé son chemin et il m'a demandé, êtes-vous perdu? J'ai dit oui. Il dit, vous allez où? J'ai dit le nom de l'école. Il dit, suivez-moi. Je l'ai suivi dans des dédales de chemin. C'était compliqué. Heureusement qu'il m'a aidé. Je me suis dit, c'est un délégué qui va à la même conférence. Et c'est pour ça qu'il me demande de le suivre. Il me guide jusque-là et il pointe par sa fenêtre. C'est là. J'y vais, puis il s'en va, lui. Il disparaît. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que... C'est comme, il a été envoyé en mission spéciale pour moi. C'est peut-être un ange que Dieu a permis qu'il ait pour une situation spéciale, une forme humaine, pour me faire un souvenir de sa bonté envers moi. Mais tout était comme... Il n'avait pas d'aile, comprenez-vous? C'était comme un homme dans une voiture. En plus, il y avait un peu de rouille sur sa voiture. Alors, je me dis, peut-être, je ne sais pas si c'est permis, mais qu'un ange ait de la rouille sur sa voiture, je ne sais pas. Oui! Oui! Oui, wow! Donc, on voit que Dieu est créatif, il refuse de se limiter à une seule forme de communication. Parlons un petit peu maintenant des rêves et visions qui sont plus courantes dans notre période de la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes. Quoique ce n'est pas donné à tous. On en voit plusieurs fois dans les Écritures, mais moi j'aimerais vous parler de la conversion de saint Augustin. Je pense que si vous êtes comme moi, ça va vous encourager. Saint Augustin, c'est devenu un pasteur de l'Église dans le 5e siècle, donc les années 400. Donc ça fait longtemps. Mais c'était un chrétien et dans sa jeunesse, par contre, il était un professeur très, très connu dans les universités de l'époque. Et son talent était illustre. Cependant, il s'était livré à temps plein à une vie éloignée de Dieu et même de ses propres dires de débauche. Tout ça s'est raconté dans son autobiographie qui s'appelle « Les Confessions ». De saint Augustin. C'est à lire, c'est pas facile à lire, mais c'est un des classiques de la spiritualité et de la théologie chrétienne. Ça vaut la peine de le lire. Puis ce qui est intéressant dans ce livre, c'est épais de même, il parle de sa vie, et c'est d'un bout à l'autre, c'est une prière. C'est-à-dire que la manière qu'il a écrit sa vie, il parle de « moi à toi, puis toi, c'est Dieu ». C'est assez unique. Mais en tout cas, donc, il était éloigné de Dieu, a donné à l'immoralité sexuelle et a détourné les gens de l'unique vrai Dieu avec ses spéculations philosophiques. Sa mère, Monique, était chrétienne. Pas son père, mais sa mère était chrétienne. Et avait failli désespérer plusieurs fois, mais elle continuait à prier pour la conversion de son fils Augustin. Quand il avait 19 ans, Monique, elle a eu un rêve dans lequel elle a vu son fils marcher avec elle, main dans la main, dans le paradis de Dieu. C'était un rêve qu'elle a eu. Elle sentait fortement, elle savait que Dieu lui parlait et le rêve était là pour l'encourager à continuer à intensifier ses prières pour son fils Augustin. Mais après des années de prières par après, son fils semblait s'éloigner de plus en plus. Il était devenu encore plus instruit, encore plus célèbre, plus arrogant et plus attaché au mal que jamais auparavant. En même temps, vous allez voir, Dieu était à l'œuvre. Dieu était à l'œuvre, mais visiblement, il s'éloignait. Et elle a essayé de recruter un chef d'église respecté, du nom d'Ambroise, qui est devenu Saint-Ambroise, l'évêque de Milan. Elle est allée voir Ambroise, si je ne me trompe pas, je crois que c'était lui, et elle voulait le recruter pour parler à Augustin. Mais il a refusé. Ambroise a refusé avec sagesse, sachant que cela risquerait de durcir davantage le cœur d'Augustin. Elle a sangloté devant Ambroise, mais il a répondu, « Femme, il est impossible que le fils de ses larmes périsse. Femme, il est impossible que le fils de ses larmes périsse. » Et elle a été comme grandement encouragée par ce genre de paroles prophétiques. Elle a continué à prier. Et 9 ans après le rêve de Monique, et je ne sais pas combien de temps après cette rencontre avec Ambroise, Augustin raconte dans les Confessions qu'il était assis dans un jardin, toujours incroyant, mais troublé, parce que Dieu était à l'œuvre, et il a entendu une voix audible prononcer ces mots, « Prends-le, Élie, prends-le, Élie. » Encore et encore, et c'était la voix chantante d'un enfant. Il a regardé autour pour voir s'il y avait des enfants qui jouaient, il n'y en avait pas. Et il a comme senti, « Ah, mais c'est peut-être Dieu qui me parle. » Alors, dans l'histoire, et j'oublie le détail de comment ça se fait qu'il y avait une Bible pas loin, mais il a pris une Bible et il a vu Romains 13, 13 à 14, il l'a lu. Et c'était marqué, « Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre chair pour satisfaire ses convoitises. » C'est, pour la première fois, ça l'a vraiment comme amené à la foi et à la repentance. Et finalement, il est devenu un serviteur de Dieu. Son cœur a commencé à être transformé à partir de ce jour. Donc, lorsque Monique a failli sombrer dans le désespoir, Dieu lui a donné d'abord un rêve, ensuite une parole qui était, c'était comme une, on a vu dans le cours l'expression une réma, hein? Donc une parole qui pas, c'est pas garanti que par la parole de Dieu que chaque enfant pour qui on prie va devenir chrétien. Mais c'est certainement quelque chose pour lequel on prie. Et dans le cas de notre sœur ici, Monique, elle a reçu cette prophétie. Et je la souhaite pour nous tous qui prions pour nos enfants. Femme, il est impossible que le fils de ses larmes périsse. Wow! Je le souhaite pour chacun de nous. Et finalement, il y a eu cette voix audible pour Augustin lui-même, et ensuite, la Bible elle-même qui est venue transpercer son cœur. Wow! Dieu parle, mais il utilise aussi les rêves, même aujourd'hui. On va continuer avec simplement quelque chose d'encore plus fréquent, d'autres personnes. Vous avez vu l'évêque de Milan qui s'est senti inspiré de dire cette parole juste pour Monique à ce moment-là, qui s'est avéré comme vraiment quelque chose direct de Dieu. Quelque chose de plus régulier et qui est vraiment là pour nous, c'est la prédication. Donc, aujourd'hui même, je me suis préparé pour vous amener un message. Et je dirais que Dieu veut utiliser les prédications, les messages dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on voit que Dieu a institué la prédication pour l'Église et les nombreux dons d'enseignement. Il y a la prédication, il y a l'enseignement des cours, il y a des docteurs qui donnent des cours et au niveau de l'Évangile il y a aussi ceux qui écrivent des livres. Tout ça fait partie de dons que Dieu donne à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il nous parle à travers d'autres personnes. On pense aussi au ministère comme forteresse ou comme les conseillers chrétiens ou dans la cure d'âme. Dieu nous parle à travers des personnes qui sont formées et appelées pour cela. Et puis, il y a ces paroles qui viennent de Dieu à l'intention d'autres personnes. Et la Bible utilise un mot qui est peut-être un peu épeurant, dit le ministère de la prophétie. En fait, une dimension vraiment importante dans la prophétie, c'est ce qu'on a vu avec Ambroise, c'est que Dieu lui inspire une parole à communiquer à quelqu'un d'autre pour l'aider à prendre des décisions ou l'aider à aller dans une direction spéciale. Et voilà un don que la Bible dit, on veut que ça prolifère dans l'Église. C'est pour ça que Dieu dit, bon, le don de parler en langue, c'est bien, je vous encourage à le rechercher, mais encore plus important, rechercher le don de prophétie, c'est-à-dire de recevoir des paroles pour les autres ou pour l'Église. Laissez-moi vous partager quelque chose ici qui est arrivé cette semaine à l'intention de l'Oasis. Je crois que j'ai une diapo. Oui, c'est là, vous ne pouvez pas lire. Mais on a reçu un courriel aujourd'hui de notre église partenaire de Cochrane et en disant, voilà, on était réunis en prière, l'équipe pastorale. Ils sont plusieurs. Et on a décidé, on va prier pour l'Oasis. Et ils ont fait de la prière d'écoute. Et puis, finalement, je ne sais pas comment ils font ça, mais ils se passent une feuille, puis s'ils sentent qu'ils reçoivent quelque chose pour l'Oasis, eh bien, ils l'écrivent. Alors voilà, il y a différentes choses écrites sur la feuille. Laissez-moi vous en lire une qui est en haut à droite. Quelqu'un a écrit, ça s'est passé récemment, là, comme peut-être lundi ou mardi, quelqu'un a écrit, et ce n'est pas quelqu'un qui est en dialogue avec nous, mais qui a reçu ceci et qui a écrit, « Je vous vois comme un phare sur un rocher au milieu d'une mer rugissante et en pleine tempête. » En parlant à l'Oasis, vous êtes une place d'espoir, un refuge, une place d'amour, de compassion et de rescue, de sauvetage pour ceux qui sont dans la noirceur, dans le danger et dans la détresse. Que les gens soient attirés vers la lumière. C'est encourageant. C'est encourageant. Et il y en a d'autres aussi. Je vois ceux qui sont brisés, ceux qui sont perdus, ceux qui sont blessés venir vers vous, Oasis. Votre Église est un havre de repos pour la communauté, une lumière au bout du tunnel, un baume dans Gilead. Donc, voilà deux choses en particulier que je voulais partager avec vous dans ces paroles-là. Comment dirais-je? C'est quand même une bénédiction comme façon de voir comment on peut nous aimer les uns les autres, c'est d'être à l'écoute de Dieu pour les autres pour qui on prie. Seigneur, as-tu peut-être une parole qui est pour cette personne? et de leur transmettre. Évidemment, il faut apprendre à discerner quoi, quand, comment. Et ça, on en reparlera. C'est des choses qu'on a considérées dans le cours, surtout dans la session d'hier. En tout cas, donc, tout ça pour dire que, à travers les autres personnes, Dieu nous parle. Le temps avance, on va arriver à notre point principal ici, c'est que Dieu, il faut, voilà, la manière la plus courante par laquelle Dieu nous parle, le murmure doux et léger. L'expérience d'Élie sur le mont Horeb, hein, dans l'Ancien Testament, nous parle d'un souffle ou d'un murmure qui contient la présence de Dieu. Vous vous souvenez peut-être, Élie était découragé, il s'est réfugié, il avait fui le pays parce qu'il était persécuté, il avait fui le pays et s'est retrouvé dans une caverne et l'Éternel vient vers lui et lui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui érodait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre, mais il n'était pas dans le tremblement de terre non plus. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu non plus. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Ça, c'est le signe que quelqu'un sent qu'il est dans la présence de Dieu. Et Dieu est tellement fort, sa présence est tellement forte, qu'on sent qu'on a besoin de se protéger. Et ce murmure expérimenté par Élie, incompris par les gens de prière traditionnellement, comme symbolique de cette voix douce de Dieu que tous ses enfants, de tous les temps, ont entendu à l'intérieur de leur cœur et continuent jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, cette voix intérieure, elle prend la forme de pensées qui sont nos pensées. L'affaire, c'est qu'on arrive à discerner que ça ne vient pas vraiment de nous. C'est ça le truc. C'est que ce sont nos pensées, puis en même temps, il y a quelque chose qui nous dit « ça vient de Dieu ». Il y a beaucoup de choses qui nous montent à l'esprit, des désirs, des angoisses, des inquiétudes, et nous élevons à Dieu comme nos prières, et tout ça, c'est bon. Mais quand, par exemple, Néhémie dit « Mon Dieu m'a mis à cœur d'assembler les notables hein? », quand Dieu me met à cœur quelque chose, dans un sens, il ne faut pas le dire à la légère, c'est qu'en quelque part, Néhémie a discerné qu'une de ses pensées, il y avait quelque chose d'émotionnellement fort, de peut-être émotionnellement pur, quelque chose qui lui a permis de discerner, peut-être avec un peu de temps, « Oh, ça vient de Dieu. C'est le doux murmure de Dieu. Et il faut que j'obéisse, il faut que j'agisse là-dessus. » C'est ce que Néhémie a fait. Il a assemblé les notables pour faire le recensement. Le temps avance, mais c'est vraiment important de dire... Et ça, c'est quelque chose qui vient du cours, mais c'est quelque chose que j'avais appris. C'est que si la Bible nous dit, si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. C'est sûr qu'il va te la donner, doute pas. Mais, puis moi, je manque toujours de sagesse. Dans les choses de Dieu, je ne suis pas un génie, mais pas pantoute. Je la demande souvent, puis je suis comme coincé. Il faut que je croie que Dieu me la donne. Donc, une manière de mettre ça en pratique, ce que je viens de dire concernant la voix douce, c'est je demande la sagesse dont j'ai besoin pour tel ou tel problème, je me mets en prière d'écoute et je fais confiance que Dieu va me parler. Et donc, je prends au sérieux ce qu'il va me dire et c'est pas rare pour moi d'écrire. Puis des fois, c'est « Garde, Marc, attends. » Puis je dis « OK, Seigneur, tu me demandes d'attendre. » Des fois, quand on prie, on est tellement troublé par la situation que nos pensées, nos prières sont toutes mélangées. Mais je peux entendre des fois, le Seigneur me dit « Marc, attends. » Attends, ce n'est pas le moment pour toi de recevoir le prochain pas qui est clair. Mais le prochain pas, c'est d'attendre. Si quelqu'un manque de sagesse, nous dit Jacques, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi. Sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Cette dernière partie, ce n'est pas pour vous décourager, c'est pour vous encourager juste à faire confiance à Dieu. Et ce n'est pas parce que vous faites confiance à vous-même, c'est que vous qui avez de la misère à entendre Dieu, vous avez de la difficulté à prendre des décisions. Mais Dieu, il est tellement généreux, il veut tellement te donner sa sagesse, il va s'organiser pour t'aider. Il va s'organiser pour se rendre clair à toi. Comment est-ce qu'on découvre les doux murmures de Dieu et comment on apprend à les discerner? Bien, je pense que des fois, c'est évident. Puis des fois, ça prend du temps. Et c'est par l'expérience. Hein? Donc, c'est correct aussi de se tromper des fois, surtout quand c'est nouveau pour nous. Et on est là pour nous entraider. On est là pour peut-être demander des confirmations. Hein? Des fois, ça m'arrive... peut-être d'appeler un ancien. J'ai senti que j'ai entendu cela en prière. Qu'est-ce que tu en penses? Et d'écouter ce que la personne répond. Je me souviens que souvent aussi, c'est avec mon épouse. Qu'est-ce que tu en penses, Cheryl? Des fois, je sais qu'elle est contre l'idée. Mais je sens que le Seigneur m'a dit telle chose. Et je lui dis, garde, j'étais en prière, j'ai senti qu'il faudrait faire telle chose. J'ai senti ça en prière, mais je cherche une confirmation, qu'est-ce que tu en penses? Puis des fois, elle dit, bien finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Voyez-vous que l'Esprit est à l'œuvre les uns avec les autres et nous cherchons ensemble à écouter la voix de Dieu. Pourquoi maintenant, pour terminer, pourquoi Dieu préfère cette manière-là de communiquer avec nous? Bien, premièrement, il réserve les révélations grandioses comme un ange ou une voix audible pour peut-être les occasions d'urgence spéciales. Un peu comme Joseph, que Dieu a réveillé au milieu de la nuit, le père de Jésus, pour dire, garde. Les soldats s'en viennent. Prends l'enfant, prends ton épouse ou ta fiancée. Ils étaient-tu mariés? Bien, en tout cas, ça, c'est une histoire qu'on va voir à Noël. Prends-les, puis dégage. Va-t'en en Égypte parce que les soldats d'Hérode s'en viennent. Hein? Je ne veux pas me perdre, là. Je suis en train de parler des grands moyens. Dieu garde les révélations grandioses pour les besoins exceptionnels. Mais... plus important encore, le genre de relation que Dieu veut avec les humains, avec ses enfants, c'est quelque chose de plus relationnel, de plus 24 heures sur 24. Il veut une relation non-stop avec ses enfants, avec toi, avec toi. Et donc, c'est comme logique qu'il veut qu'on réussisse à être à son écoute en tout temps et d'être capable de discerner même sa volonté, son doux murmure en tout temps. Le paradis de Dieu ne sera pas peuplé de gens qui ont été forcés de croire en lui et de le suivre, mais il sera composé de personnes qu'il aime et qui le désirent librement. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, c'est un peu, comment je pourrais dire ça? Nous, on est comme des illuminés, pour les gens qui nous voient de l'extérieur, peut-être on va penser qu'on est des malades, des personnes qui sont des malades dans leur tête, là, que dans le sens, tu crois que Dieu te parle à travers tes pensées, mais t'es-tu fou? Le pauvre, mais en fait, Dieu se cache de ces personnes-là. Ni l'insouciant, ni l'incrédule, ni l'obstinément aveugle ne peuvent encore entendre sa voix. Mais ceux qui ont un cœur humble et le désir de s'approcher de Dieu vont apprendre à entendre sa voix. C'est pour ça que le prophète avait dit, c'est Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » C'est Dieu qui parle, hein? « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Donc, vous voyez que ceux qui veulent vraiment vont en profiter. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça n'empêchera pas que les gens vont nous trouver bizarres. Et aussi qu'il faut quand même être prudent dans la manière qu'on explique ça aux gens. Pour pas les perdre, il faut quand même avoir une certaine sagesse quand on leur explique qu'on sent qu'on a entendu la voix de Dieu. Mais c'est sûr que ça va les intéresser. Hein? Les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur autour de nous, de comprendre dans leur langage que, waouh, c'est possible d'avoir une ligne de communication avec le Créateur de l'univers. Oh, waouh, parle-moi plus. Alors, pour conclure, ce matin, nous avons parlé de la variété des manières que Dieu nous parle. Et nous avons vu sa préférence pour le doux murmure intérieur. Donc, avec ses enfants, avec nous, ceux qui sont guidés par la Bible, qui sont habités par l'Esprit Saint et qui marchent humblement ensemble. Comme Élie l'a expérimenté sur le mont Horeb, hein, quand il est sorti de sa caverne, Dieu nous invite, nous aussi, à apprendre à entendre le doux murmure du Père Céleste. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. C'est le premier dimanche où on commence à préparer nos cœurs pour Noël. Et on a déjà parlé dans le passé que nous, on veut être un peuple différent en ce mois de l'Avent, un peuple qui ne se laisse pas aller à la frénésie, aller à l'inquiétude, aller à la compétition pour acheter les meilleurs produits dans les magasins. On ne se laisse pas aller à l'inquiétude du « qu'est-ce qu'un tel va penser de son cadeau? » Et je sais que tout ça est là. Je sais qu'il y a des problèmes financiers dans le temps de décembre. Je sais que c'est un défi pour certains, beaucoup plus que pour d'autres. Mais on est là pour s'entraider, pour dire « on veut être à l'écoute du Sauveur qui est venu en cette période. » Et je vais vous proposer un exercice de prière d'écoute dans quelques instants. Pour cette semaine, on va prier maintenant, puis après ça, je vais vous montrer l'exercice, et puis après ça, j'inviterai l'équipe de louanges. Est-ce qu'on prie? Merci Dieu. Au fond, on te remercie pour qui tu es. Un Dieu tellement bon que tu as tout pourvu pour qu'on ait une communication avec toi, une relation personnelle. Et tu as tout pourvu pour qu'on le fasse ensemble, non pas chacun dans son coin, mais individuellement et ensemble, dans l'unité. Merci pour ton Église. Merci pour Noël aussi, qui nous permet de nous rappeler que tu as tout donné pour nous et maintenant, nous pouvons, en communion avec toi, redonner à ceux qui sont autour de nous. Merci pour ceux qui ont déjà commencé à acheter des cadeaux dans un esprit d'amour, pour ceux qui ont levé des fonds pour aider d'autres et qui vont continuer à le faire. Merci pour ceux qui te servent dans l'Église. Merci pour ceux qui sont à ton écoute. Et Père, bénis nos familles, notre Église, en ce Noël 2022. Guide-nous, parle-nous, nous prions. Aide chacun aussi à apprendre à t'écouter et à prendre ce temps, même à chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, l'exercice, et on l'avait fait une fois il y a plusieurs années. Et bien, c'est fait pour Noël. Je vais me permettre de vous l'envoyer par courriel ce soir. C'est très simple. C'est une lecture pour chaque jour. Et donc, ceux que ça intéresse, remplacez vos lectures. Si vous avez un programme de lecture le matin, remplacez-le par celui-ci. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le rajouter, vous pouvez le remplacer. Et il y a ici 4 lectures pour 4 jours de la semaine. Dans le premier chapitre de Luc, qui parle de la préparation de la naissance de Jésus. Et vous avez des instructions. Ça c'est 4 jours. Mais vous pouvez continuer, si vous voulez, avec 3 autres lectures. Mais si vous avez juste le temps d'en faire 3, c'est pas grave. Si vous voulez faire les 7, c'est merveilleux, c'est comme vous voulez. Mais l'idée, c'est les instructions qui sont simples. Prie d'abord, Seigneur, guide-moi d'entendre ta voix à travers cette lecture. Ensuite, lis le texte lentement, 2 fois ou 3, et médite. Peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose? Seigneur, est-ce qu'il y a un verset ou un mot ici qui me touche, qui est pour moi maintenant? Cherches-tu à me parler par un verset particulier ou une idée particulière? Ou, wow, cette histoire me fait penser à telle personne que je devrais appeler. Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Écoutez en silence. Note peut-être avec un stylo ce que tu reçois et obéis. Peut-être, si tu trouves que c'est flyé, peut-être demande conseil à quelqu'un. Cherche confirmation peut-être avec quelqu'un de ta famille ou peut-être, pourquoi pas, ton pasteur ou quelqu'un dans ton groupe maison. J'ai eu une idée flyée. J'ai senti que ça venait peut-être de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Et recevoir un conseil. Mais si tu sens que tu peux y aller, ben vas-y. Et j'espère qu'on trouvera le temps dimanche prochain. Oui, on va trouver un moment peut-être pour un partage ou deux. Alors, je vais vous envoyer ça par courriel cet après-midi ou ce soir, et ceux qui sont intéressés. Mais je vous encourage à faire l'exercice. Avez-vous des questions?